Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans cet essai politique publié aux éditions du Château, Renaud Camus prolonge les thèmes développés dans Le Grand Remplacement et La Dépossession. La destruction des Européens d'Europe examine, à travers une prose polémique et fortement conceptuelle, ce que l'auteur désigne comme un changement de peuple et de civilisation en Europe. Son titre fait délibérément écho à l'ouvrage historique de Raoul Hilberg sur la destruction des Juifs d'Europe. Ce rapprochement constitue l'un des aspects les plus controversés de sa démarche. Camus relie migration, mondialisation économique, transformation culturelle, démographie et institutions politiques dans une théorie qu'il appelle le « remplacisme global ». Il interprète ces phénomènes comme les manifestations d'une logique de substitution généralisée. Le livre n'est ni une enquête académique ni une synthèse démographique, il s'agit d'un essai d'intervention, porté par un vocabulaire propre à l'auteur et par des jugements normatifs très affirmés. Sa lecture requiert donc une attention critique, notamment parce que plusieurs de ses catégories et conclusions sont vivement contestées dans le débat public. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le grand remplacement comme cadre interprétatif de l'essai. Le cœur du livre est la reformulation et l'élargissement du concept de grand remplacement, expression associée depuis longtemps à Renaud Camus. L'auteur l'emploie pour désigner ce qu'il présente comme une substitution progressive des populations et des références civilisationnelles européennes sous l'effet combiné des migrations, de la démographie et des choix politiques. Dans cet ouvrage, le phénomène ne renvoie donc pas seulement à des flux migratoires, il englobe la langue, les pratiques culturelles, le rapport au territoire et la continuité historique des peuples. Camus donne à cette thèse une portée morale maximale en parlant de destruction et en la rapprochant, par son titre, d'un crime contre l'humanité. Ce geste rhétorique est central à la réception controversée du livre. Il transforme une lecture politique des transformations démographiques en accusation historique et institutionnelle. Il faut distinguer cette interprétation de l'état du savoir scientifique. Les évolutions migratoires et démographiques sont étudiées par des disciplines qui insistent sur leur pluralité de causes, sur les dynamiques d'intégration et sur l'hétérogénéité des situations nationales. Elles ne valident pas mécaniquement le schéma global de substitution proposé par Camus. L'intérêt analytique du livre réside ainsi moins dans une démonstration empirique systématique que dans l'exposition cohérente d'une vision identitaire de l'histoire européenne, contemporaine. Deuxièmement, le remplacisme global, une critique de l'interchangeabilité moderne, Camus ne réduit pas son diagnostic à l'immigration. Il propose la notion de remplacisme global pour désigner une logique moderne où personnes, peuples, cultures et biens deviendraient interchangeables. Selon les entretiens et présentations liés au livre, cette logique prendrait ses racines dans la rationalisation scientifique, l'industrialisation et la production de masse, avec la chaîne de montage comme image emblématique. La référence à Taylor et à Ford sert à décrire un monde organisé autour de l'efficacité, de la standardisation et de l'extension indéfinie de la consommation. Dans cette perspective, le grand remplacement ne serait qu'une conséquence particulière d'un système plus vaste qui traite les réalités humaines comme remplaçables. Cette articulation explique pourquoi l'essai associe critique culturelle, critique du capitalisme mondialisé et inquiétude écologique. Elle constitue aussi l'une de ses ambitions les plus distinctives. Camus cherche une généalogie philosophique de la substitution, plutôt qu'un simple commentaire de l'actualité migratoire. Cependant, la force unificatrice du concept est également sa limite en rassemblant sous une même étiquette des processus industriels, économiques, culturels et politiques très différents. Il risque d'effacer leurs mécanismes propres. Le lecteur doit donc évaluer si cette notion éclaire les continuités entre ces phénomènes ou si elle les simplifie excessivement. Troisièmement, plus jamais ça, antiracisme et critique de l'universalisme européen. Une part importante de l'argumentation vise l'Europe d'après-guerre et la formule « plus jamais ça ». Camus interprète l'antiracisme, l'égalitarisme et l'universalisme des droits humains comme des principes qui auraient progressivement empêché les Européens de penser leur propre continuité collective. Il soutient que l'identité européenne serait devenue, dans le discours dominant, une identité tenue de s'effacer au nom de l'ouverture et de l'égalité. Cette critique cherche à mettre en évidence une tension entre l'universalisme politique, qui protège les individus indépendamment de leur origine, et l'attachement à des héritages culturels particuliers. C'est une question réelle dans les débats sur la citoyenneté, l'intégration et le patrimoine. Mais Camus la traite depuis une position explicitement identitaire et accusatrice. Son raisonnement présume fréquemment que l'antiracisme et la reconnaissance de sociétés pluralistes conduisent nécessairement à la négation des cultures européennes, ce qui ne découle pas automatiquement de ces principes. L'égalité devant la loi, la lutte contre la discrimination et la transmission d'un patrimoine national ou européen peuvent, en pratique, être articulées de façon diverse. Le livre se distingue ici par son refus de cette conciliation. Il présente l'universalisme contemporain moins comme un idéal imparfait que comme un moteur de dissolution. Cette opposition éclaire à la fois la cohérence polémique de l'essai et la nature de ses controverses. Quatrièmement, le récit d'un déclin européen depuis la Première Guerre mondiale, Camus inscrit son analyse dans un long récit de déclin. La Première Guerre mondiale y apparaît comme un seuil décisif, elle aurait détruit la centralité européenne, affaibli les anciens empires et inauguré un déplacement durable du pouvoir culturel et politique hors du continent. L'auteur associe ensuite ce basculement à l'américanisation, à l'industrialisation culturelle et à la diffusion de formes artistiques ou sociales perçues comme étrangères à l'Europe ancienne. Cette périodisation donne au livre une dimension historique et civilisationnelle. Les débats présents ne sont jamais traités comme isolés, mais comme l'aboutissement d'une crise commencée au début du XXe siècle. La méthode relève toutefois davantage de l'essai culturel que de l'historiographie. Les transformations européennes après 1914 sont effectivement profondes. Guerre mondiale, décolonisation, montée des États-Unis, construction européenne, mondialisation. Mais leurs effets ne se laissent pas réduire à une seule trajectoire de perte identitaire. Le recours à un âge antérieur, plus cohérent ou plus cultivé, fonctionne chez Camus comme point de comparaison normatif. Il explique son souci de continuité esthétique, linguistique et historique, mais peut aussi conduire à idéaliser le passé et à sous-estimer les conflits, les inégalités et les échanges qui ont toujours structuré l'Europe. Ce thème reste essentiel pour comprendre la tonalité élégiaque et alarmée de l'ouvrage. En dernier lieu, de l'alerte intellectuelle à l'appel à une reconquête politique, la destruction des Européens d'Europe n'est pas conçue comme un diagnostic détaché. Camus appelle ses lecteurs à une forme de réveil ou de reconquête politique et culturelle, formulée dans certains entretiens comme une révolte décoloniale des Européens autochtones. Il critique les partis, les institutions et les élites qu'il juge complices de la dynamique qu'il décrit et invite à rompre avec les choix électoraux qui, selon lui, la favorisent. Cette orientation militante situe le livre dans la tradition des essais identitaires de combat plutôt que dans celle de l'analyse descriptive. Elle aide à comprendre son vocabulaire très chargé, génocide, occupation bloc génocidaire, qui ne vise pas seulement à décrire mais à mobiliser. C'est aussi le point où la prudence critique est la plus nécessaire. De tels termes déplacent des catégories historiques et juridiques précises vers le terrain de la polémique politique. Ils peuvent durcir la perception des groupes concernés et réduire la possibilité d'un débat fondé sur des faits vérifiables. Un lecteur peut néanmoins y examiner une question plus générale: comment concilier souveraineté démocratique, maîtrise des politiques migratoires, cohésion civique et respect égal des personnes. L'essai apporte à cette question une réponse univoque et identitaire. Sa valeur de lecture réside surtout dans la compréhension d'un courant de pensée contemporain, de ses mots d'ordre et de ses présupposés. En conclusion, cet ouvrage s'adresse en priorité aux lecteurs qui souhaitent comprendre de l'intérieur la pensée politique de Renaud Camus et l'évolution de ses concepts depuis Le Grand. Remplacement. Il peut également intéresser les observateurs de la rhétorique identitaire en France et en Europe, les étudiants en histoire des idées ou les lecteurs désireux d'analyser les conflits contemporains autour de l'immigration, de l'identité et de l'universalisme. Le bénéfice intellectuel d'une telle lecture ne consiste pas à y trouver une étude neutre des réalités démographiques, il tient à l'identification d'un système interprétatif complet, reliant modernité industrielle, mondialisation, culture de masse, écologie et souveraineté, par rapport à de nombreux essais centrés sur les seules politiques migratoires. Camus se singularise par l'ampleur de sa généalogie et par une écriture littéraire volontiers néologique qui donne à ses thèses une forte cohésion symbolique. Cette même singularité appelle une lecture accompagnée, confrontée ses affirmations aux données démographiques, à l'histoire sociale, aux droits et aux travaux sur l'intégration, permet de mesurer ce que son cadre met en lumière comme ce qu'il laisse de côté. La référence à Hilberg. L'emploi de termes empruntés au registre du génocide et la généralisation de catégories telles que « remplacisme global » explique que le livre soit profondément controversé. C'est donc un texte utile pour cartographier une sensibilité politique et ses arguments, à condition de maintenir une distance critique et de ne pas confondre langage polémique, analyse historique et démonstration étayée. Si vous souhaitez soutenir Renaud Camus, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.